RFI, bonjour, il est midi à New York, 17h en temps universel, bonsoir, 18h ici à Paris.
Nicolas Brousse.
La situation dans l'est de la RDC est l'objet en ce moment même d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour la première fois, le secrétaire général des Nations Unies appelle clairement au retrait des forces rwandaises, alors que le M23 soutenu par le Rwanda se rapproche de la capitale provinciale de Goma, selon la chef de la MONUSCO. Donald Trump propose que l'Égypte et la Jordanie accueillent les Gazaouis, proposition qui étonne, même de la part du nouveau président américain. Analyse à suivre. La musique adoucissant les mœurs, rendez-vous en fin de journal avec un duo français, Terre Noire, dont l'album Protégé est un coup de cœur du service culture. En République démocratique du Congo, les combats opposent toujours à l'est l'armée congolaise et ses alliés au groupe M23 soutenu par le Rwanda. Affrontements dans les environs de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Ces derniers jours, 13 militaires déployés au sein des forces internationales ont été tués dans les affrontements. Hier, la RDC a annoncé le rappel de ses diplomates au Rwanda. Paulina Zidi, vous êtes notre envoyée spéciale permanente en direct de Kinshasa, où l'on suit avec beaucoup d'attention une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, prévue initialement pour demain lundi. Elle a donc été avancée et elle est en cours.
Oui, tout à fait, elle est en cours et ça a permis de faire le point sur les combats. Les affrontements se poursuivent. Les nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13, pénétrant en plein jour sur notre territoire, a déclaré devant le Conseil la chef de la diplomatie congolaise, évoquant les affrontements depuis ce matin, donc au nord de Goma, et ajoutant c'est une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom. Lors de cette même réunion, la représentante onusienne, Sia Kinshasa Bintou Keita, a reconnu la présence du M23 vers la base de la MONUSCO de Mounigui à la sortie nord de Goma. Elle a aussi pressé le Conseil de sécurité d'agir vite car selon elle, le M23 reçoit des renforts rwandais dans la zone de Goma. Plusieurs pays membres ont déjà pris la parole. Les attaques contre la MONUSCO peuvent être considérées comme des crimes de guerre passibles de sanctions, a notamment déclaré l'ambassadeur britannique, le premier à avoir prononcé ce mot, sanctions réclamées par la RDC. Il faisait référence aux militaires de la force onusienne tuée et blessée ces derniers jours dans les affrontements. Des combats face au groupe M23 soutenu par le Rwanda ont tenu à souligner plusieurs membres du Conseil prenant en référence les différents rapports des experts. Des déclarations qui vont aussi dans le sens de celle du secrétaire général de l'ONU. Avant cette réunion, Antonio Guterres a pour la première fois appelé en le nommant le Rwanda à retirer ses troupes de RDC. Pour expliquer ce durcissement du ton, une source sécuritaire estime que désormais l'ONU ne peut plus fermer les yeux. Ce ne sont pas des rebelles, mais une armée qu'il y a en face. Fin de citation.
Paulina Zidi, en direct de Kinshasa. La guerre civile au Soudan, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a retrouvé ce dimanche son quartier général à Khartoum. Il avait dû l'abandonner en août 2023 à ses rivaux, les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide. Ce retour intervient deux jours après une attaque sanglante, 70 morts et 19 blessés, attaque par drone contre le principal hôpital d'Al-Fasher, la capitale du Darfour Nord, assiégée jusque-là par les FSR. Une attaque qui a suscité l'indignation des Nations Unies et de l'Arabie Saoudite qui finance cet établissement hospitalier. Nous ferons de nouveau le point sur l'actualité africaine particulièrement chargée en ce dimanche dans nos prochaines éditions, notamment Afrique Soir à 18h30 TU et à toute heure quand vous le voulez sur RFI.fr. Le Premier ministre israélien remercie ce soir le président américain de lui fournir, selon ses termes, des outils nécessaires, en l'occurrence des bombes de plus de 900 kilos dont la livraison avait été suspendue par Joe Biden pour qui leur utilisation causerait une grande tragédie humaine. Outre ce déblocage, Donald Trump fait un autre cadeau à Benjamin Netanyahu et ses alliés d'extrême droite au gouvernement en proposant un nettoyage total de la bande de Gaza et un déplacement, toujours selon ses termes, temporaire ou à long terme des Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie. Amman affirme ce soir son rejet d'un déplacement forcé des Palestiniens. Ce serait contraire au droit international, selon Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités et président de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Contraire au droit, mais on peut s'attendre à tout. Écoutez-le, joint par Daniel Valo.
C'est une déclaration qui est, du point de vue du droit international, absolument aberrante, évidemment. Sauf que venant d'un personnage qui est président des États-Unis, ça pose plein de questions. Est-ce qu'il est en capacité de le faire ? Ce qui est sûr, c'est que ça rejoint les positions de la droite, de l'extrême droite israélienne, qui depuis très longtemps rêve en fait d'un vaste transfert de population palestinienne vers l'Égypte pour les uns, vers la Jordanie pour les autres. Et donc ce projet, il est dans la tête de beaucoup de dirigeants israéliens. Donc pour eux, évidemment, c'est un effet d'aubaine extraordinaire. Du côté du monde arabe, évidemment, pour les Égyptiens et les Jordaniens, c'est tout à fait inacceptable pour mille raisons. Et la plus évidente, c'est la sécurité de l'Égypte et de la Jordanie en particulier. Donc il n'est pas question qu'ils acceptent. Et en même temps, je serais tenté de dire que tout est possible, notamment avec l'Égypte, parce que l'Égypte est très largement dépendante des États-Unis.
Et Benjamin Netanyahou a reçu une autre bonne nouvelle. Selon lui, après une conversation téléphonique avec le président français, Emmanuel Macron autoriserait finalement les sociétés israéliennes à participer au salon aérien du Bourget en juin prochain à la faveur du cessez-le-feu avec le Hamas. Du côté de l'Élysée, on préfère insister sur le fait qu'Emmanuel Macron a demandé au chef du gouvernement israélien de retirer les militaires encore présents au sud Liban. Ils auraient dû être tous partis aujourd'hui suite à un accord conclu fin novembre. On n'y est pas, des militaires ont même ouvert le feu ce dimanche, tuant 22 personnes parmi les centaines d'habitants qui tentaient de retourner dans leur village. Nous serons en direct avec notre correspondant à Beyrouth dans le prochain journal. Dernier jour du scrutin présidentiel en Biélorussie, l'Union européenne fait déjà savoir qu'elle maintiendra ses sanctions puisque l'élection est une formalité pour le président Alexandre Loukachenko qui dirige d'une main de fer son pays depuis 30 ans. L'opposition dénonce une farce. La Biélorussie est une démocratie brutale selon les propres mots présidentiels du grand allié de Vladimir Poutine. Le président de la Russie toujours en guerre contre l'Ukraine. Moscou revendique la prise de la ville de Velika Novosika dans la région de Donetsk sur le front sud qui n'a pratiquement pas bougé mais où la crainte d'une nouvelle offensive russe s'est accrue depuis des semaines. Autre crainte pour Kiev, la pérennité de l'aide américaine alors que Donald Trump a mis les programmes sur pause pour 3 mois, le temps qu'il soit évalué conforme ou pas à sa politique étrangère. Aucune mention du statut particulier de l'Ukraine, ce qui inquiète même certains diplomates américains, Nicolas Feldman.
Dans les documents consultés par le Financial Times, les diplomates invoquent des questions de sécurité nationale et réclament une dérogation spéciale pour l'Ukraine. Nous ne savons pas à ce stade si cette demande sera approuvée, commente une source citée par le journal, mais il y a jusqu'à présent des signaux positifs en provenance de Washington. Le gel de l'aide américaine a en tout cas eu des conséquences directes en Ukraine puisque dès samedi soir, certaines organisations ont eu pour ordre de cesser leurs activités. L'aide des États-Unis, plus de 70 milliards de dollars en 2022, finance toute une série de programmes de soutien en Ukraine, des écoles aux hôpitaux en passant par le développement économique. Un responsable ukrainien précise tout de même que l'aide militaire accordée à Kiev devrait-elle être maintenue. Sur ce volet, depuis le début de l'invasion russe du pays il y a bientôt 4 ans, les États-Unis ont fourni l'équivalent de 66 milliards de dollars d'aide à Kiev.
Nicolas Feldman, face au chaos du monde, il faut se protéger. Protéger, c'est le nom du nouvel album de Terre Noire, duo français. Il est sorti avant-hier. Plus de 4 ans après leur premier disque, Les Forces Contraires, les deux frères originaires de Saint-Étienne sont de retour avec une musique faite de textures électroniques et organiques, des textes d'une justesse des plus touchantes. Compte rendu d'écoute signé Lisa Giroldini.
Sans ambition, au sommet d'un monde à moi, libéré des rêves d'enfant. Vivre sobrement.
Protégé est plus qu'un disque, c'est un lieu d'exploration, un abri, tout un monde raconté par Théo et Raphaël Herrerias du duo Terre Noire, un album sur le rapport à soi-même et aux autres.
On s'est dit comment on crée des connexions en fait, quels sont les niveaux d'échelle, comment on crée des cartes pour pouvoir territorialiser l'imaginaire qu'on a essayé de déployer à l'intérieur de cet album, l'imaginaire de l'intime, l'imaginaire politique, l'imaginaire du futur, l'enfance, de la maladie, de tout ce qui est dit, ça a été par l'idée de cartographier, de dessiner des territoires.
Paris, la grande ville, l'après-midi, le temps file, le temps change, soleil, pluie, les gens varient, et puis ma vie change. Au sol, il y a des vestiges.
Ici, les machines électroniques s'entremêlent aux instruments acoustiques pour créer des textures chaleureuses, sublimant des textes des plus touchants.
La vie est une farandole, on se fait déchirer la gueule, on en redemande encore, moi j'en redemande encore.
Et c'est en musique que se termine ce dernier journal que j'aurais présenté sous la rédaction en chef de Mounal Bana, un pilier d'RFI qui s'apprête à prendre une retraite bien méritée. Une page va donc se tourner pour elle et pour moi qui ai eu l'honneur et l'avantage de travailler à ces années de longues années. RFI, 19h10 à Beyrouth, 18h10 à Rabat, Paris et Saint-Malo, l'heure de retrouver ID, Pierre-Edouard Deldic.